Bonsoir et bienvenue à la tribune de la presse de ce vendredi 5 juin 2009. Comme vous le savez, dans cette émission, nous analysons avec des confrères quelques grands faits qui ont dominé l'actualité de la semaine. Et au menu de cette émission, trois thèmes à savoir, affaire lettre de la présidence de la République adressée au Premier ministre Adolphe Mouzito sur les dépenses publiques. Et comme deuxième thème, nous parlerons de la fin de la visite en RDC de la rapporteure spéciale des Nations Unies sur la situation des défenseurs des droits de l'homme Margaret Sekaga. Enfin, nous aborderons dans notre troisième thème cette nouvelle présence des militaires angolais dans le village de Sava, dans les territoires de Bantangungu, dans la province du Bas-Congo. Trois confrères sont avec moi dans cette émission pour en parler. Il s'agit de Gustave Kalenga, il est éditeur du journal La Flamme du Congo. C'est un journal qui paraît à Kinshasa, mais Gustave intervient à partir de Gemena, dans la province de l'Équateur. Claudine Bombo, elle est journaliste et responsable de cette société du quotidien L'Observateur, un journal qui paraît aussi à Kinshasa. Et Jean Dombassi, directeur de la radio communautaire de Mwanda au Bas-Congo. Donc, il intervient à partir de Mwanda dans le Bas-Congo. Avant d'aborder nos trois sujets de ce soir, jetons d'abord un coup d'œil dans les colonnes des différents journaux de la capitale pour voir comment ces faits d'actualité ont été commentés. Le journal de journaux avec Alain Hirung.
Bonsoir. Par rapport au sujet retenu pour cette tribune de presse, Boussa cherche la tête de Mouzito, titre La Prospérité. Pour le journal, le député national Jean-Lucien Boussa a présenté hier à l'Assemblée nationale sa motion de défiance contre le gouvernement en utilisant des mots aux accents suicidaires pour le couple AMP-PALU. L'idée de cette motion de censure contre l'actuel Premier ministre Adolphe Mouzito se précise de plus en plus, signale l'Observateur à sa une, alors que d'après ce journal, le remaniement du gouvernement a été annoncé pour ce mois de juin. Sur un autre registre, Margaret Sekaga peint un tableau noir pour la RDC où les défenseurs de droits de l'homme sont victimes lorsqu'ils dénoncent les violations des droits de l'homme, indique la référence Plus. Abordant le même sujet, la tempête des tropiques renseigne que Sekaga déplore l'environnement difficile des activistes et même des relativistes. Pour le ministre de la Communication et Presse cité par ce quotidien, pas un secteur n'échappe à cette réalité qui caractérise notre État en situation post-conflit. Terminons cette revue de presse par les aléas aux frontières. Nouvelle confusion dans le Bas-Congo et la province orientale, souligne le palmarès. Ce quotidien parle de l'occupation angolaise dans la localité de Sava dans le Bas-Congo. Mais il fait aussi remarquer un autre problème similaire dans la province orientale où l'on devait ériger un poste frontalier de l'OFIDA à la frontière entre la RDC et l'Ouganda. Confirmé par des sources locales, nouvelle incursion des soldats angolais au Bas-Congo reprend Uhuru. Pour le journal, les autorités locales, notamment les chefs de secteur, sont sensibilisés sur le retour depuis 5 jours des militaires angolais au village Sava dans le territoire de Mbanzangungu, à plus de 200 km de Matadi.
Merci Alain Hirung pour cette revue des presses. Claudine Bombo, vous êtes journaliste et responsable de la société du quotidien L'Observateur. La revue de presse que nous venons de suivre, est-ce qu'elle vous semble suffisamment fournie?
Elle est vraiment fournie parce que toute la semaine, ce sont les faits saillants de la semaine. Et je pense que nos journalistes et les chasseurs d'informations n'ont pas tapé à côté. Ils ont été vraiment à la hauteur de ce qui se passe sur l'ensemble du pays.
Gustave Kalenga, éditeur du journal La Flamme du Congo, vous intervenez à partir de Gemena dans la province de l'Équateur. Un petit commentaire sur cette revue des presses par rapport au sujet que nous allons traiter ce soir.
En fait, le commentaire est très clair. Vous savez, quand nous commençons par la lettre que le président de la République a écrit au Premier ministre, Mouzito Adolphe, pour accuser sa gestion, ça soulève un tollé dans l'opinion en ce qui concerne le respect et surtout la séparation de pouvoir entre le pouvoir exécutif, législatif et le pouvoir du président de la République. En ce qui concerne la violation des droits de l'homme, ou bien le rôle que jouent les associations des droits de l'homme et la manière dont ils sont mal vus par le pouvoir en place, cela dénonce de la manière dont notre pays traite tous ceux-là qui accusent, ou bien qui accusent toutes sortes de violations qui sont mises sur la force publique par ces associations. En ce qui concerne la présence des militaires angolais sur notre territoire, moi je crois que ce n'est pas une actualité. Notre peuple est habitué à voir des forces étrangères sur notre sol. Qui les appelle? Qu'est-ce qu'ils viennent faire? et comment ils opèrent.
Merci du sable, les détails, c'est dans le débat tout à l'heure.
Merci beaucoup, je voulais seulement faire le petit commentaire comme tu l'as demandé.
Ok. Jean Dombassi, vous êtes directeur de la radio communautaire de Mwanda dans le Bas-Congo, donc vous intervenez à partir de Mwanda. C'est quoi l'actualité aujourd'hui à Mwanda?
Bon, l'actualité chez nous ici à Mwanda se focalise au niveau de la situation qui se passe dans le village de Sava, territoire de Mbanzangou, avec cette deuxième expédition de militaires envolés dans ce village. Ce que la population ne comprend pas, c'est cette deuxième fois, parce que la première fois, c'était le 26 février, il a fallu l'intervention du Premier ministre Mobutu
pour que cet
élément parle.
Jean-Dombassi,
le moment à trop c'est trop, je pense qu'on en parle tout à l'heure.
D'accord, merci. Donc vous m'avez compris. Comme nous le disions dans le sommaire de cette émission, premier thème, affaire maître de la présidence de la République adressée au Premier ministre Adolphe Mobutu sur les dépenses publiques. Une motion d'information du député Jean-Lucien Boussa sur la mauvaise gestion financière reprochée au Premier ministre Adolphe Mobutu par la présidence de la République risque de déboucher sur une motion de censure. Le député de l'opposition a annoncé hier jeudi qu'il compte aussi demander au chef du gouvernement de s'expliquer sur la situation économique et sociale du pays qu'il juge déplorable. Pour les députés de l'ANC, cette motion est légale, mais qu'elle ne soit pas une ingérence dans les affaires entre la présidence et le gouvernement. Marie-Chantal Lomba pour les détails.
Cette motion, c'est suite à la lettre de la présidence de la République adressée au Premier ministre. Elle stipule que tout ordonnancement des dépenses publiques devrait requérir avant paiement l'autorisation du chef de l'État. Le directeur de cabinet du président de la République, signataire de la lettre, indique que l'instruction est dictée dans le souci d'endiguer les dérapages substantiels et répétés des finances publiques et de la monnaie nationale. Selon Jean-Lucien Boussa, ce document est une preuve que le Premier ministre Adolphe Mobutu a perdu la confiance du chef de l'État et qu'il devrait démissionner.
La présidence de la République vient de nous rejoindre par rapport à cette observation en rapport avec la mégestion des finances publiques, que le président de la République voudrait désormais lui-même suivre la gestion des finances publiques des deux premiers ministres, en toute responsabilité, devrait prendre des mesures qui imposent une telle rupture de confiance et une telle mégestion des finances publiques, démissionner.
Du côté de la majorité, cette affaire concerne a priori la présidence et le gouvernement. Aubin Minako explique.
L'Assemblée nationale, quant à elle, peut continuer à légiférer et à contrôler ce gouvernement. C'est pourquoi, personnellement, j'ai appuyé la conclusion du président de l'Assemblée nationale et a rappelé toutes ses prérogatives. Qu'il n'y a rien à dramatiser dans cette affaire.
Pour l'instant, les députés de l'opposition comptent amorcer la procédure administrative pour une motion de censure.
Gustave Kalinga, éditeur du journal La Flamme du Congo, comment interpréter ou analyser cette lettre de la présidence au Premier ministre Adolphe Mobutu?
Merci beaucoup pour la question. Le président de la République a écrit au Premier ministre, avec copie au Parlement, à l'Assemblée nationale, pour accuser la mégestion du Premier ministre Mobutu. La question que nous nous posons est la suivante. Sur le plan de la Constitution, cette démarche est-elle légale? Au nom de la séparation du pouvoir, le gouvernement est responsable devant l'Assemblée nationale en dehors des domaines de collaboration qui sont la défense, la sécurité et les affaires étrangères. Ça, c'est la Constitution qui le dit. Ici, l'idée d'accuser est très bonne, comme vient de le poser le président de la République et son institution. Mais dans l'opinion, on estime que la procédure viole la Constitution. Le Parlement, dans sa mission régulière de contrôler l'action du gouvernement, devrait se saisir du dossier, surtout quand on avait dénoncé le pléthore des membres du cabinet Mobutu et d'aucuns présentés au-delà de 400 membres. Et ce n'est pas la présidence de la République d'accuser.
Mais est-ce que la présidence de la République a accusé ou il a demandé au Premier ministre de ne pas engager des dépenses publiques?
Oui, effectivement, ma consoeur, la conséquence politique, c'est ce qui nous intéresse le plus ici. La conséquence politique de cette lettre est claire. Face à la mauvaise gestion qui vient d'être annoncée et constatée, le Premier ministre Mobutu doit avoir le courage politique de démissionner avant qu'il ne soit humilié par sa famille politique et l'ANP, qui vient d'être en harmonie circonstancielle avec l'opposition. Et je considère que l'idée d'accuser elle est bonne, mais la manière et la procédure viole la Constitution, car cela ne tienne, je crois que la situation sociale et économique
ne tient pas seulement à la mauvaise gestion de Mobutu. Et moi, je crois que c'est l'ensemble du gouvernement, l'ensemble des structures qui gèrent le quotidien de notre pays, de notre peuple, est aussi responsable. Quand tu as dit que c'est Mobutu seul qui gère mal, je ne crois pas, parce que Mobutu, en tant que Premier ministre, il n'a pas la mainmise sur la Banque centrale. Mobutu n'a pas la mainmise sur la défense nationale. Mobutu n'a pas la mainmise sur le pays de sécurité. Mobutu, c'est un Premier ministre, je ne sais pas si il a déjà, il a la situation réelle des finances publiques. C'est là le drame.
On va revenir à vous, Gustave. Le temps pour moi de passer la parole à Claudine Bombo, qui ne semble pas être d'accord avec vous. D'ailleurs, c'était même à la une de votre journal aujourd'hui, Claudine Bombo.
Oui, nous avons statué sur ces cas-là. Je crois que je ne suis pas totalement d'accord avec Gustave, qui est mon confrère, que j'ai salué à partir d'ici. Ce que je vais dire, je ne sais pas, c'est la question que je vais poser peut-être à Gustave. Faut-il s'en tenir aux conséquences politiques du constat du président? Parce que le président n'accuse personne, mais il constate et il écrit et au premier ministre avec copie pour information au Parlement. Gustave vient de le dire, le Parlement est là pour le contrôler. Le président a fait un constat et je pense que le moment est venu pour que le Parlement s'en saisisse du dossier et fasse son travail. Je ne vois pas en quoi on peut dire non les conséquences politiques. Bien sûr, Mobutu aussi, les sages, si c'est lire les signes des temps, il devrait démissionner.
Mais vous, comment vous interprétez cette lettre quand le président demande au Premier ministre de ne plus engager des dépenses publiques? Comment vous comprenez ça?
Kéline t'a dit qu'il n'y a pas longtemps, le Premier ministre avait aussi écrit au ministre des finances pour lui dire qu'il ne faut plus engager les dépenses sans ma signature. Et je me dis, le président n'a pas du tout tort. Il n'a pas du tout tort. Première raison, vous savez que c'est le président que le peuple regarde. Dans une année, quelques mois, nous irons aux élections. Et c'est le peuple ont voté le président Kabila, ils n'ont pas voté Mobutu. Et je pense que Mobutu n'a rien à perdre dans cette situation. Il n'a rien à perdre. Mais les présidents plutôt vont perdre beaucoup. Et il sait qu'il doit rendre compte au peuple. Vous savez combien de dépenses sont engagées à la primature. Guissard vient de les dire. Le premier ministre a au moins 400 conseillers. Et dans ces 400 conseillers, il y a 150 qui ont des jeeps achetés avec l'argent du trésor public. Entre nous. Ça ne va pas. C'est un conseil, je pense que le président a raison. Et le président a même constaté que le premier ministre qui est chef du gouvernement et tous les ministres ne regardent pas dans la même direction. Il n'y a pas la solidarité gouvernementale avec la présidence. Et il était temps pour qu'il puisse parler, pour qu'il puisse réagir.
Jean Bombassi, directeur de la radio communautaire de Mwanda au Bas-Congo. De votre côté, comment vous analysez ou interprétez cette lettre de la présidence?
Bon, la lettre signée par la présidente de la République est normale. Hein. À partir du moment où le Parlement a saisi de ce dossier, je pense qu'on ne peut plus parler violation de la Constitution. Mais nous, on se demande une chose, cette motion de Jean-Lucien Boussa devrait être en principe soulevée par un député de l'AMC. Mais jusque-là, on n'a rien vu du côté de l'AMC.
S'il vous plaît, Jean Dombassi, pourquoi vous dites que cette motion devait être initiée par un député de l'AMP?
Bon, vous savez que dans 24 mois, je ne vous apprends rien. Nous devons renouveler les animateurs de toutes les institutions. Parce que la lettre de la présidente de la République, c'est une lettre qui signale que quelque part les choses ne marchent pas. Parce que j'irais te prévoir. On ne pouvait pas continuer avec cette gestion chaotique. Et c'est pourquoi le président de la République a fait une alerte. Donc quelque part, ça ne va pas. Donc, Boussa, c'est un homme qui a compris et qui a vu à temps. Mais en principe, ce n'est pas lui qui devrait introduire cette motion. Ça devrait être quelqu'un, un député de l'AMP, de cette famille politique qui est au pouvoir. Voilà.
Donc, si je comprends bien, la démarche de l'opposition n'est pas bonne.
Oui, moi, j'aurais souhaité que ça soit un député de l'AMP qui constate ça. Voilà, pas M. Lucien Boussa.
Merci, Jean Dombassi. Gustave Kalenga, vous avez suivi Claudine Bombo, vous avez suivi Jean Dombassi. Jean Dombassi dit que cette démarche devait être menée plutôt par un député de la majorité que par un député de l'opposition. Qu'est-ce que vous en pensez?
En fait, en politique, politique, il y a toujours des mariages contre nature. Vous vous souviendrez à l'époque de la Deuxième République, quand il était question de faire partir M. Mossengo à la tête du HRTC et Kengo a donc compromis le ministre, pour la première fois, le Mouvoutique et les hommes de l'IDFS se sont alliés pour mener une action ensemble et faire partir M. Mossengo du perchoir et Kengo Wadondo poste de premier ministre. Mais cette fois-ci, les cartes sont claires. Mouzito doit déjà comprendre qu'on ne veut pas de lui, on ne veut pas du Palou, je crois que cette alliance est en train de voler en éclat, tout simplement parce que il fallait faire participer l'opposition. Dans la stratégie, il était simple que Jean-Lucien Boussa, qui est de l'opposition, puisse présenter cette motion qui, normalement, va déboucher à la motion de fiance. Et là, je dis que ce n'est pas du tout, ce n'est pas à condamner, ce sont des stratégies politiques. Mais quand à dire que la situation catastrophique de notre pays repose sur la tête de seul Mouzito, moi je m'inscris en faux. Parce qu'aujourd'hui, c'est tout cela qui gère les institutions de la République, la présence de la République et le gouvernement qui sont responsables de la misère de notre peuple. Je vais vous donner un exemple aujourd'hui. Aujourd'hui, vous voyez, chers consoeurs, la politique qui est en train d'être menée dans la ville de Kinshasa. On est en train de démolir les maisons comme quoi ce sont des constructions classiques. Mais quelque part, on oublie les personnes qui ont donné des documents de manière officielle à ces bénéficiaires. Et on s'attaque à ceux qui ont payé leur argent. Entre temps, l'État, il est en même temps accusateur et en même temps accusé. Ce sont des pratiques qui sont totalement condamnées. Et quand vous dites que Mouzito a mal géré, mais il faut aussi comprendre que le président de la République relance un débat fondamental sur la crédibilité de son entourage. D'ailleurs, lui-même avait dit dans le journal New York Times en disant que j'ai dans mon entourage 5 ou 7 personnes d'une forte crédibilité. Moi, je crois qu'aujourd'hui, le président de la République ne doit pas seulement jeter les pierres sur Mouzito, il devra regarder tout son entourage, parce que lui-même l'avait déclaré, ainsi justice sera faite. Moi, je crois que l'idée d'accuser est bonne, mais il faut suivre la procédure et aussi ne pas avoir une justice à plusieurs vitesses.
Victor Kalenga, c'est quoi cette procédure qu'il faut suivre?
La procédure est claire. C'est le Parlement, dans sa mission de contrôler, qui devrait déjà se saisir du dossier quand on avait dit que Mouzito avait un pléthore, comme la conseillère Bombo vient de le dire, tous les conseillers. Je prends seulement la cellule de communication. Est-ce que vous savez que chez Mouzito, il y a pas moins de 40 membres journalistes dans la cellule de communication? Il en avait que 2 ou 3. Et tous ces conseillers-là, ils ont chacun une équipe. Et ça émerge du jeu de l'État, c'est trop gros. Et à ce moment-là, l'Assemblée nationale devrait se saisir de cette question. Ce qui est mal, ce qui n'est pas bon, c'est quand ça commence à mal tourner que l'Assemblée nationale, la ANP commence à instrumentaliser l'opposition. Et les gens de l'opposition sont là pour faire le civisme, et ce n'est pas bon. En gros, ce que nous pouvons retenir, c'est que Mouzito n'est pas seul responsable de la misère de notre peuple, et que tout le monde qui a posé un acte qui mène à la gestion, qui contribue à la misère de notre peuple, devra aussi comprendre qu'il est responsable. Mais quant à la procédure, c'est l'Assemblée nationale qui devrait prendre les choses en main, contrôler et inviter le Premier ministre. D'ailleurs, vous vous souviendrez, avant l'élection de avant le départ de Kamere, il était inscrit à l'ordre du jour l'interpellation du Premier ministre.
On n'a pas beaucoup de temps, on a 3 thèmes dans ce débat, donc il faudra qu'on passe la parole aussi aux autres. Merci, on a compris votre idée. Claudine Mbombo, finalement, est-ce qu'on ne va pas au divorce Palou-AMP?
Bien sûr que oui, nous tendons déjà vers la loi. Le problème, tu sais, c'est quoi Je ne sais pas, les présidents n'arrivent pas à trouver, comme Gustave vient de le dire tout à l'heure, les oiseaux rares avec qui ils veulent travailler.
Et les ces oiseaux-là rares, ils doivent les chercher où?
Bon, les oiseaux rares existent, ils sont là, mais le problème, c'est les marais politiques, comme on l'a dit tout à l'heure. Il est maintenant coincé, il est, je ne sais pas si je peux dire, il est pris dans son propre piège avec toutes ces alliances qui ont eu lieu avant les élections et maintenant ces alliances continuent. Il est peut-être pris dans son propre piège, mais il s'est ressaisi. Et il veut qu'on puisse aller de l'avant. Et partir de l'avant, c'est interpeller. On parle du contrôle parlementaire, mais du moment où le Parlement lui-même ne bouge pas, faut-il laisser la case brûler? Faut-il attendre jusqu'à ce qu'un député puisse se réveiller un matin pour parler? Ou bien il faut alerter de temps en temps pour qu'on puisse se ressaisir? Peut-être il a pris, oh, il s'est ressaisi. C'est pas trop tard. Je pense que c'est pas tard. Il est temps de se ressaisir et surtout, surtout, de punir. Il faut punir.
Punir qui?
Tous les responsables. Tous les responsables qui se retrouvent dans la mégestion, il faut les punir.
Merci Claudine. Jean Dombassi, vous intervenez à partir de Mwanda. Vous avez un dernier mot à ajouter par rapport à tout ce qui s'est dit sur ces thèmes.
Oui, si je veux dire quelque chose, c'est ce que Claudine Mbombo a dit, hein, le Parlement ne bouge pas. Les chefs de l'État ne pouvaient pas décider comme ça, les pays tomberaient. Donc, il a agi en âme et conscience pour écrire au Premier ministre. Et puis, comme le Parlement s'est saisi de ces dossiers-là, je pense que nous demandons à tous les députés d'agir en responsable, de se mettre derrière Jean-Lucien Boussa. Et nous voulons voir au finish la censure de ce gouvernement, parce que le temps passe rapidement et dans 24 mois, on doit renouveler les élections. Ce n'est pas Moïse qui va s'assumer, mais c'est Joseph Kabila qui va s'assumer devant le peuple congolais.
Merci Jean Dombassi. Deuxième thème de notre débat de ce soir, fin de la visite en RDC de la rapporteuse spéciale des Nations Unies sur la situation des défenseurs de droits de l'homme, Margaret Setaga. Les défenseurs de droits de l'homme en RDC sont toujours confrontés à un environnement difficile malgré la volonté du gouvernement de construire une société démocratique. Déclaration de la rapporteuse spéciale des Nations Unies sur la situation des défenseurs de droits de l'homme, Margaret Setaga. Il faut dire que la rapporteuse spéciale des Nations Unies sur la situation des défenseurs de droits de l'homme a fait ce constat dans un point de presse mercredi dernier. C'était à l'issue de sa visite officielle de près de 15 jours en RDC, visite qu'il a conduite notamment à Kananga et à Bukavu. Margaret Setaga a rencontré les autorités nationales, dont le Premier ministre Adolphe Mouzito, les autorités provinciales, les défenseurs des droits de l'homme et les représentants de la société civile. Margaret Setaga a fait un constat pas heureux des conditions de travail des défenseurs de droits de l'homme en RDC. On l'écoute au micro de Radio Okapi.
From all the visits we made, there isn't anything which was raised to us which was mixed up. We missed out everything about threat to defenders, intimidation, killing, murders, retreat. All those things have been raised. Detention by the ANR.
Tout ça est abordé dans le communiqué de presse. Détention par les agents de l'ANR.
Non-accessibility to their detention place.
Difficulté d'accès à leur lieu de détention.
All those are in our press release.
Ça figure dans notre communiqué de presse.
Now, the measures. What is my perception of the situation of human rights?
Je vais vous demander quelle était ma perception de la situation des droits de l'homme dans le pays.
It's still serious.
Elle reste grave.
C'était la Margaret Setaga, rapporteuse spéciale des Nations Unies sur la situation des défenseurs des droits de l'homme. Elle s'exprimait en anglais, donc c'est un son doublé. Ainsi, pour améliorer la situation des défenseurs des droits de l'homme, Madame Setaga fait quelques recommandations au gouvernement et aux autorités provinciales. Il s'agit entre autres de condamner publiquement les assassinats et autres graves violations des droits de l'homme commises contre les défenseurs des droits de l'homme, enquêter sur toutes les violations des droits de l'homme commises contre les défenseurs, juger dans le cadre d'un procès équitable les acteurs présumés et les condamner s'ils sont reconnus coupables, faire de la lutte contre l'impunité pour les violations commises contre les défenseurs une priorité. Réponse du ministre congolais des droits humains au constat de la rapporteure spéciale des Nations Unies sur la situation des défenseurs des droits de l'homme en RDC, Opio Kakura n'approuve pas du tout les tableaux brossés par Madame Margaret Setaga, même si le qualifie en même temps d'équilibré. Le ministre des droits humains, Opio Kakura,
Sakura, intervenait dans l'émission Dialogue entre Congolais hier jeudi. Il est au micro de Jean-Claude Tumbakamanga.
La situation particulière des défenseurs des droits de l'homme n'est pas aussi mauvaise, n'est-ce pas, que on peut le dire. Donc, le rapport de la rapporteuse, il est un rapport équilibré. Il a fait l'objet d'une discussion avec moi-même et mes services, et qu'on a donc pris bonne note des efforts qui doivent être fournis conformément aux défis que nous avons déjà nous-mêmes relevés. Dans ce rapport, il y a pas mal de points qui font l'objet de notre plan d'action et sur lesquels nous travaillons déjà, et que, considérant l'environnement dans lequel nous évoluons, l'environnement de démocratisation, de construction d'un état de droit. Et donc, globalement, je crois qu'il y a des choses sur lesquelles, n'est-ce pas, on peut insister pour améliorer notre travail.
C'était là le ministre de droits humains, Opio Kakura. Claudine Bombo, vous êtes journaliste au quotidien L'Observateur, c'est un journal qui paraît à Kinshasa. À votre avis, sur base de quoi la rapporteuse spéciale des Nations Unies sur la situation des défenseurs de droits de l'homme, c'est base pour dire que la situation, les conditions de travail des défenseurs ne sont pas bonnes, elles sont difficiles?
Bon, j'ai parcouru une partie du rapport, les résumés que j'avais à ma possession. Ce que je n'ai pas retrouvé dans ces rapports, ce sont les chiffres. Je n'ai pas vu les statistiques, à moins que ça se trouve dans la partie que je n'ai pas lue. Mais je n'ai pas vu les statistiques. Alors, je me dis, à partir de ces manquements que je mets entre guillemets, sur base de quoi peut-on condamner ou bien évaluer les violations des droits de l'homme en ce qui concerne les défenseurs de ces droits-là? Je ne sais pas. Si on pouvait nous dire dans le rapport que sur 100 défenseurs des droits de l'homme, 80 ou 90 sont souvent objets ou sujets de tracasseries de la part des services de renseignement et tout ça, là on pouvait quand même émettre un point de vue objectif. Mais jusque-là, on ne le sait pas. Mais nous devons quand même retenir une chose, la RDC, c'est un pays post-conflit. C'est un pays post-conflit et je me dis, nous devons quand même avoir de la patience, surtout nos confrères et nos amis de la communauté internationale. Nous devons avoir un peu de patience. Il faut que le pays se stabilise.
Mais quand on a le fait d'être un pays post-conflit, signifie que les défenseurs de droits de l'homme doivent travailler dans des conditions difficiles?
Tous les paramètres sont presque au rouge. Et quand il y a conflit, il y a post-conflit, on soupçonne tout le monde. On ne sait pas est-ce que réellement ces défenseurs de droits de l'homme ne travaillent pas en connivence avec nos ennemis, par exemple. Alors, au nom de doutes méthodiques, on peut soupçonner tout le monde et à tout moment, on peut interpeller tout le monde. Et c'est lui qu'est-ce qu'on appelle violation de droits de l'homme. Quand on interpelle quelqu'un pour une heure pour l'interroger sur tel sujet, ça s'appelle violation, je ne sais pas.
Merci Claudine Bombo. Jean Dombassi, vous êtes directeur de la radio communautaire de Mwanza au Bas-Congo. Margaret Setage a parlé de la méfiance existe entre les défenseurs des droits de l'homme et les autorités du pays. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes d'accord avec elle?
Ah bon, à ce sujet-là, je pense que je ne suis pas d'accord avec elle parce que vous savez que la République démocratique du Congo est en pleine refondation. Et d'abord, il faut savoir que le fait que le gouvernement de la République accepte que son arrivée à dans notre pays, c'est un attachement au sphère des droits de l'homme. Je sais que dans cette histoire, il y a beaucoup de choses, bon, il y a des manquements que nous pouvons signaler, mais comme je l'ai dit, la RDC, c'est une nation en refondation. Ce n'est pas du coup comme ça que nous allons sentir ce changement-là, mais je pense que comme l'a dit le ministre, le gouvernement est en train de s'investir là-dessus. Et pour voir comment améliorer les rapports entre les défenseurs des droits de l'homme et le gouvernement.
Merci Jean Dombassi, Victor Kalenga, éditeur du journal La Flamme du Congo. Que faut-il faire pour améliorer ces rapports entre les défenseurs des droits de l'homme et les autorités du pays?
En fait, d'emblée, je m'inscris en faux aux arguments que viennent d'apporter ma collègue Mbombo et mon confrère Mwanda. Vous savez, les activistes des droits de l'homme dans notre pays sont toujours considérés comme les auxiliaires de l'opposition. Tous les gouvernements qui opèrent sous le signe de la dictature, c'est connu, acceptent difficilement les discours de ces derniers et ils leur rendent la vie difficile. Vous devez savoir que les activistes, comme nous l'avons dit, des droits de l'homme,
condamne toujours le non-respect de la vie humaine, comme l'exige la Déclaration universelle des droits de l'homme. Dans leur combat, ils dénoncent la violation fréquente de la Constitution dans son article 11, qui dit que tous les êtres humains naissent libres et égaux, en dignité et en droit. L'article 01 est clair. Quelles que soient les conditions d'un État, le peuple congolais a droit à la vie, à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Sur le plan politique, le non-respect de la liberté d'opinion et d'expression, qui débouche souvent aux arrestations, surtout des opposants. Sur le plan social, nous assistons au non-paiement des salaires des fonctionnaires et autres travailleurs et refus de droits de grève. Quand il y a manque d'eau, il y a manque d'électricité, il y a manque de tout dans notre pays, qui pour manger c'est devenu un luxe. Mais tout ça, c'est la violation des droits de l'homme. Quand il y a manque de politique de transport, manque de politique de logement, et sur le plan économique, nous assistons à une confusion entre le taux réel du dollar par rapport au taux ou bien par rapport au prix sur le marché des biens et des services. L'insécurité juridique des investisseurs avec une justice à plusieurs vitesses, une justice rendue à la tête du client. Juste qui est l'ironie du sort, comme l'avait déclaré même le chef de l'État dans un de ses discours. Tout ça, chers consoeurs, quand les activistes des droits de l'homme stigmatisent tous ces mots, et vous devez savoir que les dirigeants de ce pays ne peuvent en aucun cas accepter cette contradiction. Ne peuvent pas accepter combien
de choses. Vous pouvez applaudir, laisse-le finir, vous allez parler après lui. Continuez rapidement,
je ne sais pas quel est. Je termine d'abord.
Oui,
l'ensemble de tous ces mots, l'ensemble de toutes ces irrégularités, surtout que ces irrégularités-là touchent la vie humaine. Quand les gens n'ont pas de salaire aujourd'hui, quand les gens pour manger, c'est nous assistons de l'État. Écoute, mes chers consoeurs, regardez seulement un des chantiers de la République, le chantier infrastructure, les routes. Quand vous prenez l'axe Kananga-Rujimaï, en passant par la mission catholique de Tikoula, je crois que les gens se demandent, est-ce que nous sommes dans un autre siècle ou quoi? Et vous observez qu'il n'y a pas de route. Vous prenez l'axe Kananga-Louébo, en moto, on fait 3 jours. Et ça, c'est contre la dignité humaine. Et les activistes des droits de l'homme doivent stigmatiser. On ne doit pas seulement parler de l'insécurité, on ne doit pas seulement parler de tuer.
Comment on doit améliorer les rapports entre les autorités et les défenseurs des droits de l'homme pour leur permettre de travailler dans les bonnes conditions?
Les autorités doivent mettre sur place la bonne gouvernance pour éviter les critiques de ces organisations. Est-ce que vous avez déjà appris que ces organisations ont une certaine émergence dans des pays, dans des vieilles démocraties? Je crois non. Mais dans des pays où il y a la dictature, dans des pays où la mauvaise gouvernance est d'actualité, et c'est dans ce pays on refuse la critique. Et ces défenseurs des droits de l'homme sont là pour amener notre peuple à voir le mal. Vous savez, dans le livre aux Corinthiens, il est écrit, écoute, le mal que je dois éviter, je le fais. En latin, ça sonne mieux. Vidéo améliora pro voco, c'est fort détériora.
Merci.
Donc, pour améliorer les
choses. En un mot, on n'a plus beaucoup de temps.
Merci beaucoup, merci.
Il faut dire quand même qu'il y a une certaine méfiance entre les défenseurs des droits de l'homme et les autorités. C'est dû à quoi cette méfiance?
Non, il n'y a pas tellement de méfiance, parce que nous tous, nous couvrons les activités de défenseurs des droits de l'homme. Je sais pas que quand Gustave dit, quand il donne qu'on les arrête, je ne sais pas à quelle occasion on les arrête. Nous couvrons leurs activités, ils tiennent des points, et vous savez qu'est-ce qu'ils disent au gouvernement? Ils dénoncent tout ce que Gustave vient de dire. Mais le débat et la question que vous avez posée, c'est à propos de mêmes défenseurs des droits de l'homme. La question était à ce niveau-là, les débats étaient à ce niveau-là. Violation des droits du peuple, nous tous on est d'accord. Tous les tableaux qu'il a peints, nous sommes d'accord avec lui. Mais les défenseurs eux-mêmes, les travaux qu'ils sont en train de faire.
C'est quoi leur rôle? Quel est leur rôle?
Leur rôle, c'est de dénoncer toutes les violations de droits de l'homme. Et moi, je pense qu'à ce point-là, ils sont libres. Au moins à 70%, ils dénoncent. Ils dénoncent et les médias relaient ce qu'ils dénoncent.
Les problèmes qu'on vous avait demandé, comment améliorer ces relations-là? Margaret était avec le gouvernement, ils étaient avec les défenseurs des droits de l'homme, et je suis sûr, chaque fois qu'il y a les enquêteurs qui viennent, ils arrivent à avoir des séances de travail avec et les défenseurs des droits de l'homme et avec le gouvernement. Et je sais qu'il y a des choses qu'il faut améliorer, mais acceptons qu'il y a déjà un début d'amélioration.
Jean Dombassi, directeur de la radio communautaire de Mwanda, qu'est-ce que vous pouvez dire à ce niveau des débats sur les conditions de travail des défenseurs des droits de l'homme en RDC?
Non, je pense qu'à ce sujet-là, ces défenseurs font bien leur travail. Ils ne sont pas condamnés, ils dénoncent tout ça. Mais le problème, c'est qu'on doit aussi approcher le gouvernement. Au lieu seulement peut-être de se limiter dans des rapports, ils dénoncent avec des copies par-ci, par-là, tout ça. Mais on peut aussi approcher le gouvernement pour leur parler vivement ce qui ne marche pas. Et proposer aussi des solutions quelque part. Voilà un peu ma contribution à ce niveau-là.
Mais quand ils vont vers le gouvernement et que le gouvernement ne leur ouvre pas les portes, qu'est-ce qu'ils font en ce moment-là?
Ah, là, je pense que là, ce n'est pas bon. Là, en tout cas, nous ne pouvons pas accepter ça. Je pense que le gouvernement doit être attentif à la critique. Parce que dans tout ça, l'objectif, c'est le bien-être de la population congolaise.
Merci Jean Dombassi. Dernier terme de cette émission, c'est cette nouvelle prison signalée des militaires angolais dans le village de Sava, dans le territoire de Mbandjangungu, dans la province du Bas-Congo. Ces derniers sont revenus depuis plus d'une semaine à Sava, dans le territoire de Mbandjangungu. C'est à plus de 200 km de Matadi, dans le Bas-Congo. Information livrée par la société civile locale depuis lundi et confirmée par les sources religieuses, politiques et administratives de ce territoire. Les détails avec Guy Roger Niampala.
Ces soldats sont dispersés dans la forêt, nous ne connaissons pas leur nombre exact. Ils sont lourdement armés, déclare cet habitant de Sava qui a requis l'anonymat. Ils n'ont pas récupéré nos habitations comme auparavant, mais ils occupent nos champs à la porte de Sava. Plusieurs sources ont confirmé cette nouvelle occupation des militaires angolais à Sava, notamment une autorité politico-administrative qui parle d'une réunion tenue le vendredi dernier avec tous les chefs de secteur de cette zone. Cette autorité affirme avoir envoyé un rapport à sa hiérarchie signalant cette présence. Rapport qui date du 25 mai dernier. Pour l'instant, les villageois commencent à se retirer petit à petit du village Sava pour se réfugier à quelques kilomètres en arrière. À ce sujet, des sources du gouvernorat du Bas-Congo affirment que le gouverneur de cette province se trouve en Angola pour des pourparlers avec les autorités angolaises. Pour rappel, le village Sava était occupé il y a plusieurs mois par les soldats angolais. Ces derniers s'étaient retirés au lendemain d'une visite du Premier ministre dans cette zone. Matadi, Guy Roger Niampala, Radio Okapi.
Merci Guy Roger Niampala. Jean Dombassi, vous êtes directeur de la radio communautaire de Mwanda au Bas-Congo. Donc vous intervenez à partir de Mwanda dans le Bas-Congo. Encore des Angolais au Bas-Congo. Comment expliquer cette nouvelle présence de ces militaires angolais sur le sol congolais?
Dans un premier temps, je dis que c'est devenu une habitude.
Jean Dombassi, s'il vous plaît, je vous demanderai d'être bref parce que nous tournons vraiment vers la fin de l'émission.
C'est devenu une habitude, une coutume. La fois passée, après le passage du Premier ministre, le 26 février, ils se sont retirés. Et pour le moment, ils sont rentrés. Donc, c'est un problème de perméabilité de nos frontières. Il faut qu'il y ait une police frontalière dans ce pays. Et sinon, ça va continuer. La fois passée aussi, c'était la même chose dans un village qu'on appelle Nkatakangu, dans le territoire de Lukula. Les militaires angolais en provenance de Kabinda se sont investis dans un village congolais là-bas. Ils ont commis des actes de vandalisme. Alors moi, je pense qu'on doit bien vérifier cette situation. Soit c'est une base arrière d'une rébellion qui se prépare pour attaquer le pouvoir de Luanda, et soit c'est une agression. Et si c'est une agression, moi, je pense que ça ne sert à rien de négocier. Pourquoi continuer à négocier? Moi, je pense qu'il faut ouvrir les deux comptes de ces gens-là, trop c'est trop. Le principe d'intangibilité de nos frontières doit être respecté. La fois passée, c'était Kayemba, aujourd'hui, c'était ça, demain. Moi, je pense que trop c'est trop. Je pense que nos amis angolais doivent prendre toutes les dispositions pour respecter nos frontières. Je vous dis une chose. Les mêmes Angolais qui envahissent à tout moment, ça va. Ce sont les mêmes Angolais qui demandent aujourd'hui de jeter un pont entre Soyo et le secteur de Sakolong et Siamouan pour désenclaver Kabinda. Nous pensons que maintenant, quand la société civile du Congo dit non à ce faux projet, je pense que la société civile du Congo a raison. Si les Angolais veulent désenclaver l'enclave de Kadida en passant par Mpanda ici, parce que c'est une peine perdue, parce que ce comportement, c'est mieux diriger une autoroute entre Soyo et Toki. Ils vont passer par Matadi en payant les péages au maréchal. Comme ça, là-bas, ils seront fouillés avant d'aller du côté de Kadida. Je pense que c'est un mauvais comportement de nos frères angolais.
Certaines sources lisent cette présence des militaires angolais au pétrole. Vous êtes d'accord? Qu'est-ce que vous en pensez?
Bon, si c'est le pétrole, je pense qu'il devait venir à Mwanda ici. C'est pourquoi la société civile dit non qu'on jette un pont entre Soyo et Mwanda pour désenclaver Kadida.
Claudine Bombo, vous êtes journaliste au quotidien L'Observateur. Plusieurs fois, les autorités des deux pays se sont rencontrées, mais apparemment, on ne trouve pas de compromis parce que les Angolais, ils viennent, ils repartent, ils reviennent. Comment comprendre ça?
Oui, c'est un problème de perméabilité, comme Ndomba l'a dit tout à l'heure. Mais je voulais juste rappeler au gouvernement que ce qui les lie, qui lie les États, ce sont les intérêts. Il n'y a pas de confiance entre les États. Mais j'ai l'impression que notre gouvernement a une confiance aveugle envers l'Angola. Et l'Angola en profite. On ne peut pas nous dire ici que les soldats qui entrent de temps en temps en RDC sont des éléments incontrôlés. Et là, moi, je m'inscris en faux. Ce ne sont pas des éléments incontrôlés. C'est une situation qui est bien connue de l'Angola. Et vous savez, nous disons toujours, la guerre cette fois-ci partira de là si on ne fait pas attention. L'Angola s'est dit, il se compare toujours au Rwanda. Rwanda a juste quelques kilomètres de frontières avec la RDC. Mais Angola, c'est je ne sais pas moi combien de kilomètres de frontières. Et il s'est dit, pourquoi avec le Rwanda, la RDC négocie, et avec moi, il ne peut pas négocier pour que je puisse récupérer quelques kilomètres en RDC. Et nous devons faire très attention avec ces incursions qui se multiplient.
Merci Claudine Bombo, Gustave Kalenga. Nous allons terminer par vous. Nous sommes vraiment presque à la fin de l'émission. Il ne reste plus que 2 minutes. Peut-on parler de la faiblesse de la diplomatie congolaise? Rapidement, Gustave.
En fait, moi, je ne peux même pas aller au-delà de la diplomatie. Je conclue tout simplement en disant qu'il s'agit là, la présence des Angolais, une indienne présence, relance le débat sur les capacités du gouvernement de défendre l'intégrité nationale et aussi le problème réel du leadership de notre pays. Vous savez, chers consoeurs, notre peuple a pris l'habitude de voir plusieurs troupes étrangères sur le sol congolais. C'est le cas des Ivoiriens, les Rwandais, les Namibiens, les Ougandais, les Tchadiens, le Soudanais et les Angolais. Aujourd'hui, les Angolais reviennent encore. Après l'épopée de Kayemba, nous voyons les Angolais. Ce n'est pas une actualité. Mais la question qu'il faut se poser est celle de savoir comment, pourquoi et par qui ils entrent. Hier, tout le monde a recouru à ses forces pour la conquête et la conservation du pouvoir. Aujourd'hui, il y a lieu de se poser la question de savoir comment et à qui et qui a autorisé ces Angolais à se retrouver encore une fois sur notre sol après le côté de Kayemba, comme je viens de le dire. Mais tous les observateurs et les décortiqueurs du cas congolais sont incapables de nous dire avec des exactitudes ce qui se trame contre notre pays. Mais en réalité, c'est comme si les Angolais rentrent pour chercher de manière pas explicite qu'on leur honore leur facture. Mais tout ça, ce sont des analyses qui ne tiennent pas debout. Mais moi, je considère que, au-delà de tout ça, il y a un grand complot contre notre République et notre constitution devra jouer son rôle pour que désormais ce pays ne puisse pas être violé et dans tout le temps.
Vous savez, c'est la fin de cette émission. Nous sommes vraiment à la fin, on n'a même plus une seconde. C'est avec vous que nous terminons cette émission. Merci à nos confrères d'avoir répondu à notre invitation. Guy Maté, assisté de Jean-Claude Toumba Kamanga, l'a réalisé pour vous. Et la mise en onde était assurée par Paul Badianama. Au nom de toute l'équipe de Dialogue entre Congolais, Jean-Claude Toumba Kamanga, Alain Hirung, Samuel Kachak, Guy Maté et moi-même Kéline Kouté, sous la coordination de Martin Sebou-Jangwe, vous souhaitons un agréable week-end en compagnie de programmes de Radio Capi.